Oui, c'est mon ami Yves Versant et Michel Gendreau-Massalou qui m'ont soufflé le titre. Ils ont une très bonne idée, Streller d'Ario Fo. Je connaissais Streller pour l'avoir vu, non pas personnellement, mais pour avoir vu ses spectacles dans les années 60 à Paris, le Baruffa Choga, le Campiello, la trilogie de la villégiature à la Comédie française. Enfin, nous étions tous sous l'éblouissement de Giorgio Streller. Et puis, personnellement, j'ai pu connaître assez bien Dario Fo par l'intermédiaire de cette petite association qui a fait un énorme travail, de José Guinaud, Dramaturgie, qui a rassemblé régulièrement autour d'elle Bernard Dort, Philippe Hivernel, Ginette Herry, Valeria Tasca, et qui accueillait des comédiens ou des auteurs, et en particulier Dario Fo, au moment où il a été connu en France, à peu près 25 ans après Streller. Je vais donc essayer de faire un peu ce portrait contrasté entre deux êtres, mais aussi deux aventures artistiques qui sont presque incompatibles, qui sont opposées et qui donnent une image extrêmement variée du théâtre italien, tel que nous l'avons vu, nous, à Paris. Dès 1940, alors que Streller est jeune comédien, il vient d'avoir son diplôme, Streller découvre avec horreur la médiocrité des petits entrepreneurs de spectacles et la laideur des spectacles. Donc il y a un combat qui va être mené pour rénover la mise en scène et pour monter d'un cran dans la qualité du travail théâtral. Il enrage de se livrer entre les mains de directeurs qui ignorent jusqu'au nom des principaux metteurs en scène européens. Voilà ce qu'écrit Streller. La première erreur de notre théâtre est d'avoir perdu la conscience de la mise en scène. Nous nous sommes laissés entraîner par les jeux merveilleux de Polichinelle et d'Arlequin. Notre théâtre a toujours été un théâtre pour comédiens, ou mieux encore, un théâtre de comédiens. Et effectivement, le passé de la Commedia dell'arte a continué à peser dans la production italienne de cette époque-là, je parle des années 40 d'après-guerre, enfin de guerre, de la guerre, et d'avant-guerre et d'après-guerre, c'est que ce sont des acteurs qui réunissent, souvent des plus ou moins vedettes, qui réunissent des partenaires, ne font pas de mise en scène, mais une mise en place à la va-vite, c'est-à-dire règlent les entrées et les sorties des comédiens, et montent des spectacles sans ambition et créent des aventures sans lendemain. Et Streller, un jeune homme en colère en quelque sorte, répète après-guerre, rien n'a changé pour le théâtre italien qui a conservé ses structures pourries. En fait, il veut secouer, dit-il, la vieille carcasse du théâtre italien. Il retrouve son ami Paolo Grassi, il partage un même projet. Balayer les vieilleries qui encombraient les théâtres, représenter des textes sur les problèmes contemporains, combattre la dictature du grand acteur et assurer le triomphe de la mise en scène. Et donc, il fonde, en février 1947, le Piccolo Teatro, et le titre est significatif, Piccolo Teatro, Petit Théâtre, c'était le nom que Stanislavski avait donné à son théâtre lui-même en Russie. Donc c'est bien le signe qui se met, que l'enjeu principal du Piccolo, c'est la rénovation des mises en scène. Mais comment, nous, Parisiens, ne pas évoquer l'ouverture d'une autre petite salle à Paris à l'initiative d'un autre jeune homme en colère qui, lui aussi, en son temps, a voulu secouer la vieille carcasse du théâtre. Voilà ce qu'écrit ce jeune homme. « Partout volerie, désordre, indiscipline, ignorance et sottise. Dédain du créateur, haine de la beauté, une production de plus en plus folle, une critique de plus en plus consentante, un goût public de plus en plus égaré, voilà ce qui nous indigne et nous soulève. Eh bien oui, en l'espace d'une génération, une même sainte colère a ouvert le Vieux Colombier et le Piccolo Teatro. Qui de Coppo ou de Streller a poussé ce cri de révolte? Le théâtre a besoin d'être décabotinisé, désembourgeoisé, désencanaillé. Peu importe, car tous les deux ont engagé le même combat de rénovation. Streller l'affirme haut et fort. Je crois devoir à Coppo la vision austère, morale, presque janséniste du théâtre. le théâtre en tant que responsabilité morale par rapport à la collectivité, un sentiment douloureusement religieux de la théâtralité. Même si je ne suis pas croyant, je partage avec Coppo l'idée d'un théâtre qui soit un engagement absolu, un don de soi aux autres. Eh bien, aussi, le programme, le Piccolo sera, comme le vieux Colombier, une véritable communauté où l'ordre et la discipline peuvent régner, d'une discipline éclairée par l'intelligence, consentie par la confiance et l'amitié. Vous voyez que ces mots, jansénisme, ordre, discipline, sentiment douloureusement religieux de la théâtrée, je les relève parce que Dario Fo est à l'opposé de tout cela. Ce n'est pas du tout la morale de Dario Fo. Et donc, nous sommes sur deux positions tout à fait contraires. Le vieux Colombier, vous savez comment on l'a appelé à Paris, vous connaissez les folies bergères à Paris, eh bien, les Parisiens appelaient le vieux Colombier les folies Calvin. Alors, le premier triomphe de Strehler est tout à fait étonnant. Dans la première saison, ils fondent le Piccolo en 1947. En juillet 1947, ils créent l'Arlequin serviteur de deux maîtres, qui va avoir 8 versions différentes, qui va tourner dans le monde entier. Ferruccio Soleri, qui était le deuxième Arlequin, m'a dit « On n'a pas tourné en Albanie ni en Corée du Nord. Voilà. » Mais enfin, en gros, il avait à le dire. Quoi. C'est un triomphe. Et pourtant, et c'est là un paradoxe, et là c'est très important, pourtant c'est un spectacle que Giorgio Strehler ne voulait pas faire. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Et ça, c'est Dario Fo qui lève le voile, son frère Fulvio Fo, et faisait partie, faisait ses premiers pas d'acteur dans ce spectacle. Voilà le témoignage du frère de Dario Fo. Certains peuvent y voir l'aboutissement d'un projet auquel Strehler pensait depuis longtemps. Il n'en est rien. L'idée de monter cette pièce est venue d'un vide dans l'affiche de fin de saison. Les deux directeurs n'y croyaient guère. On doit même à la vérité historique de dire que Giorgio ne voulait pas de ce spectacle. Ce sont donc, à mon avis, les acteurs qui ont défendu leur proposition, ont réussi à l'imposer par la force de leur conviction, de leur désir. Pourquoi Strehler renacle-t-il ? Mais parce que ce Goldoni-là reste encore sous l'influence de la Commedia dell'arte. Ce n'est pas là une œuvre majeure. Lui, il veut se présenté comme moderniste, comme réformateur de la scène, et il a peur de retomber dans la vieille ornière du théâtre italien, condamné à ne pas être autre chose, et c'est une expression de Roland Barthes, autre chose que vif, spirituel, léger, rapide, condamné à jouer à l'italienne. Et en raison du succès du spectacle, bien entendu, Giorgio Strehler n'est jamais revenu, il n'a jamais parlé de ses premières réticences. Fulvio Fo glisse sur les raisons du choix, on ne sait pas finalement, mais je pense que ce sont les acteurs qui ont entraîné le choix. Et voilà, il passe tout de suite à l'enthousiasme des répétitions. Peu à peu, tiré à U et à Dia, de thèmes du répertoire en gags empruntés aux clowns, de coupures en modifications, on a eu un spectacle, dit Fulvio Fo, vraiment unique, et je souligne vraiment unique. Car l'Arlequin, valet de maître, est très à part par rapport aux productions du Piccolo. Tous les acteurs ont pu se donner complètement dans un climat de collaboration et de grande générosité. Et là, je retrouve, ça m'évoque beaucoup, l'esprit des créations collectives, c'était l'expression de l'époque, après 68, que j'ai connu à la Cartoucherie, au Théâtre du Soleil ou au Théâtre de l'Aquarium. Fulvio Fo insiste, ce spectacle n'est pas né du travail à la table, selon une mise en scène préétablie. Il a au contraire grandi dans l'esprit de la Commedia dell'arte. Et c'est l'esprit d'improvisation qui a conduit les acteurs dirigés par Strehler à cet éclat et à cette perfection presque magique. Et d'ailleurs, Strehler le reconnaît lui-même. Il dit « Il y avait, mais c'était tout, notre merveilleuse inconscience de la jeunesse qui s'imagine pouvoir réaliser n'importe quoi. » Strehler lui-même n'était pas prêt à affronter la refabrication, en quelque sorte, de la Commedia dell'arte. Et, paradoxalement, ce triomphe mondial du l'Arlequin valet de maître, qui va aussi donner au Piccolo Teatro une audience extraordinaire, impose à Goldoni ce masque de l'italianité dont il avait tant voulu se défaire. Le voilà encore et pour longtemps représenté par une sorte d'ironie du sort, comme le champion incontestable de cette Commedia dell'arte qu'il voulait lui-même enterrer. Pourquoi un tel succès? Je pense, si vous voulez, que c'est tout simplement que les acteurs, les machinistes, les artistes venaient de sortir des années de fascisme et des années de guerre. Et que tout d'un coup, Strehler a été résistant, il a failli être exécuté, enfin il a failli mourir, il a dû s'enfuir en Suisse. Tout d'un coup, ils avaient eu peur de la mort, ils avaient eu faim, et tout d'un coup, à la libération, ils se précipitent dans l'énergie du rire, qui est, le rire c'est souvent une expression pour dépasser la mort. Finalement, ils ont retrouvé la vie, et c'est un rire de délivrance. Je crois que c'est ça, c'est un spectacle totalement historique lié à la libération de l'Italie. Et d'ailleurs, dans le programme de 52, c'est la première tournée à Paris, au Théâtre de Paris, que Strehler écrit dans le programme. En 53, il ira au Théâtre de Marigny, ce qui montre le succès tout de suite de cet Arlequin. Arlequin danse, presque avec désespoir, d'un bout à l'autre de la scène. Un désespoir tout italien, qui vient de très loin, mêlé au rire excessif, inconscient, le désespoir de la faim, de l'éternel service de tant de maîtres, des coups de bâton peut-être mérités, le désespoir d'une éternelle jeunesse gâchée par les adultes. Le rire sèche les larmes. L'expression, si vous voulez, de résurrection de la Commedia dell'arte, qu'on pourrait appliquer à ce spectacle, ou de refabrication de la Commedia dell'arte, aurait de quoi faire bondir Dario Fo. Et je lui donne tout de suite la parole pour ouvrir le débat, en quelque sorte, avec Strehler. Ce serait dommage que ces deux hommes n'aient pas fait un spectacle à eux tout seuls sur scène. Ça aurait été passionnant de les entendre parler du théâtre ensemble. On dit Dario Fo, on dit évidemment depuis toujours que le cercueil de la Commedia dell'arte, c'est Goldoni qui l'a refermé. Quand Goldoni a précisément décidé de donner une forme définitive au texte, et non pas l'improvisation, de réformer la comédie, et de châtrer l'improvisation. Je dirais pourtant, les cloches du De Profundis, je ne me hasarderai pas à les sonner. Ce serait jouer les croque-morts trop pressés. Je n'aurais pas l'audace de dire, la Commedia est née ici, elle a été un peu malade ici, ici elle s'est rétablie, là-bas elle est morte. En ce qui me concerne, la Commedia dell'arte n'est jamais morte. Et je la sens encore en moi, riche. Et d'ailleurs, il suffit, si Dario Fo était là, il suffit de voir ce concentré explosif de Fernandel, Tati, Coluche et Mélenchon. C'est un peu ça, Dario Fo. S'il était là, moi, je ne vous ai pas fait rire, mais lui vous aurait fait rire. Et tout de suite, vous auriez senti que cette énergie comique, elle est vitale. Elle est l'expression d'une liberté. Et Dario Fo, finalement, il ne veut s'enfermer dans rien. C'est un homme qui est toujours resté libre. Il ne s'intéresse pas à l'histoire, Dario Fo. Il veut casser les tiroirs historiques. Pour lui, Aristophane, Plaute, les Atellanes, les jongleurs du Moyen-Âge, les bouffons espagnols, les clowns de Shakespeare ne peuvent pas mourir parce qu'il suffit d'un acteur prodigieux pour les ramener des enfers. Et puisque le théâtre, vous le savez, c'est un lieu très proche des enfers puisque c'est le lieu où les morts viennent parler aux vivants. Dario Fo ne s'intéresse pas à Goldoni, ne s'intéresse pas au metteur en scène, ne s'intéresse pas à la réforme de la comédie, ne s'intéresse pas à l'apparition de la mise en scène, notion dite tardive, notion du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, que Strehler veut faire rattraper à son pays, qui n'a pas eu un Antoine, qui n'a pas eu un Copeau. Et donc tout d'un coup, il y a un retard qui est rattrapé par Strehler. Mais pour Dario Fo, c'est une notion finalement datée presque de l'histoire du théâtre. Et Dario Fo, auteur-acteur, comme Molière, d'une certaine manière, fonde le théâtre sur le primat de l'auteur et de l'acteur, et ils veulent arracher le théâtre à la littérature, d'une certaine manière, au profit de l'improvisation, au profit d'une écriture vivante qui se fait sur la scène, à partir de la scène, avec les acteurs. Dario Fo ne s'est jamais enfermé dans quoi que ce soit, si vous voulez. Strehler était un homme d'une institution, le Piccolo Teatro, qu'il a accompagné de 47 à sa mort, 97, avec juste la suspension de quelques années, 6, 7 ou 8 ans après 1968, où il avait quitté le Piccolo Teatro. Mais Dario Fo, lui, ne s'est jamais enfermé dans aucune institution. Monologue à la radio, émission succès à la télévision, récital de chants populaires, revue théâtrale, écriture de comédies, de contes. il est resté un ludion tout à fait libre, un bouffon de la société en quelque sorte. D'ailleurs, et ça a été une surprise pour moi, Dario Fo, le rabelaisien Dario Fo, se retrouve bizarrement sur la même ligne que le janséniste Jacopo, quand ce dernier exprime son goût pour la haute farce. Voilà ce que dit Copo, « Qu'on me laisse le temps de former mes farceurs et d'orienter peu à peu mes camarades, alors l'expression est extraordinaire, hors du guépier de la littérature. » Alors c'est quelqu'un qui fait partie de la NRF, de la Nouvelle Revue Française, et qui parle du guépier de la littérature. Cette expression-là, je l'ai entendue dans la bouche de Dario Fo, qui veut arracher le théâtre à la littérature. Et ça, c'est évidemment le combat tout à fait différent, puisque Strehler est un homme des lettres, un homme du texte, un homme de la mise en scène qui sert le texte, alors que Dario Fo est ailleurs. Alors bien sûr, en 89, les Français ont été charmés de retrouver la Commedia dell'art vue par Dario Fo aux Français, avec le médecin volant et le médecin malgré lui. Vitez n'a pas pu voir la création, il est mort avant, hélas. Mais Dario Fo a enthousiasmé les comédiens français en leur redonnant la liberté italienne d'improviser le texte. En fait, il leur disait « Prenez la brochure, secouez-la, ce n'est que la trace d'une des représentations de Molière qui forcément a été figée dans le texte à un moment donné, mais figurez-vous que la veille ou que le lendemain, il changeait le texte, comme les comédiens italiens. » Et Dario Fo devient aux Français comme une sorte de scaramouche, plus qu'un metteur en scène, il est metteur en scène, mais enfin, comme un scarabouche qui va secouer les acteurs français en leur redemandant d'être improvisateurs. Le texte de la farce n'est plus sacré. Il ne le ferait pas avec le misanthrope, évidemment. C'est parce que c'est de la farce. Le texte de la farce n'est plus sacré. Les acteurs ne jouent pas le texte de la farce, ils jouent avec lui. Et d'ailleurs, il a associé des canevas de Commedia dell'arte sur le même thème que le médecin volant et que le médecin malgré lui pour enrichir l'imagination des comédiens. Et donc le cœur de Molière se remet à battre au rythme vivace et fantasque de la Commedia. En fait, les acteurs sont invités à rivaliser en poésie avec le poète. Et c'est un peu ça la Commedia dell'arte. Chacun est poète de sa propre figure et chacun fait partie du poème qui est en train de s'inventer sur la scène. Ainsi, vous le voyez, avec le premier Arlequin de Strehler, avec les farces de Dario Fo français, on voit que la Commedia dell'arte est toujours vivante dès qu'on décide de la rendre vivante, et en même temps, on voit que c'est un piège dans lequel s'est enfermé le théâtre italien, qui est quelque part condamné à l'italianité, à faire du jeu italien et à rester fidèle à la Commedia dell'arte. C'est donc un jeu dangereux. Par exemple, le Théâtre des Nations a souvent invité des troupes italiennes à Paris. Mais comme le Théâtre des Nations avait pour principe de défendre la découverte des traditions populaires, les troupes italiennes qui avaient besoin d'argent, qui avaient besoin de passer dans notre capitale, nul n'est prophète en son pays, il faut jouer à l'étranger, il faut être reconnu à l'étranger, eh bien, présentaient tous des pièces qui étaient plus ou moins liées à la Commedia dell'arte. Et d'une certaine manière, les spectateurs français en redemandaient, puisqu'il y a dans notre imaginaire collectif, puisque les comédiens italiens ont été tellement importants entre 1580 et 1780, avec des allées et venues, mais enfin, dans notre imaginaire collectif, il y a une demande de Commedia dell'arte en France, à Paris. Mais en même temps, cela a joué comme un conservatisme. Un peu comme les Vénitiens étaient outrés par Visconti quand il avait monté une locandiera bourgeoise. Ils étaient outrés, les Vénitiens. Ils avaient injurié Visconti. Et de même, les Parisiens attendent finalement cette vivacité italienne qui enferme le théâtre italien. Dario Fo, je l'ai découvert en 1974, donc, sur scène, je l'avais rencontré, mais c'est-à-dire 22 ans après Strehler. Les Français le découvrent 22 ans, les Parisiens le découvrent 22 ans après Strehler. Et c'est Mistero Buffo. Mistero Buffo, c'est l'inverse de l'Arlequin Valette de Maître. Aucune troupe, un homme seul, aucun masque, aucun costume, aucun accessoire, un homme en pantalon et polo, aucun décor, une simple moquette noire, aucun fauteuil de théâtre. Les spectateurs sont assis en tailleur autour de ce tapis de jeu. Aucun jeu de lumière. Le théâtre de metteur en scène a radicalement disparu pour laisser la place au théâtre d'acteur. Un homme en pantalon, en polo, grand, visage ouvert, commence à nous présenter son projet. Il avait retrouvé, dit-il, on n'est pas obligé de le croire, je crois, d'anciens textes, différents conteurs populaires du Moyen Âge, qui portent un drôle de regard sur les récits évangéliques. Et ce sont des petites gens, vous le savez, qui rajoutent des tas de petits détails ce qui s'est passé réellement au cours des noces de Cana, ou bien au moment de la résurrection de Lazare. Et peu à peu, notre conteur s'anime. En quelques moments précis et rapides, il fait le croquis de la scène sans jamais s'enfermer dans rien. Dario Fo s'amuse à interrompre le jeu naissant pour faire de fréquents écarts entre le récit religieux et l'actualité politique ou scientifique la plus brûlante. Il semble vouloir jongler, voilà, c'est un jongleur, entre différentes narrations qui se croisent librement. Quand deux silhouettes dialoguent par sa bouche, le jongleur passe prestement d'un interlocuteur à l'autre. Cette succession de courts-circuits nous délivre de l'incarnation et de la psychologie. Le récit s'envole. C'est un conteur. D'ailleurs, il a fait son apprentissage, puisqu'il était des environs du lac de Garde, auprès des conteurs populaires du lac de Garde. Et c'est là que toute l'imagination profonde de Dario Fo, elle est vivante, parce qu'il a entendu ces conteurs. Conteurs qui ont disparu, c'est un genre qui a disparu d'une certaine manière, peut-être pas dans les pays du tiers-monde, mais il semble avoir disparu, je ne sais pas, en Italie pour l'instant, mais voilà. Donc c'est un magnifique conteur, narrateur et acteur qui par exemple, la résurrection de Lazare, c'est extraordinaire, il fait la foule à lui tout seul. Donc tout le monde se précipite dans le cimetière, on sait que le Christ va faire un miracle, tout le monde attend le miracle, donc il y en a qui louent des chaises, il y en a qui vendent de la nourriture, etc. C'est un vrai spectacle, c'est un vrai show, quoi. Et lui raconte tous les personnages à toute allure, il nous fait faire la foule. Donc un seul acteur et la foule. Et c'est ça la multiplication du théâtre, comme la multiplication des pains, voilà le miracle, un seul acteur qui fait toute la foule, le texte de la narration et la technique d'expression ne font qu'un, l'acteur et le poète ne font qu'un. Dario Fo, d'ailleurs, trouve que les Italiens ont bien de la chance, parce qu'ils vivent depuis longtemps une époque formidable pour la farce, dit-il. Alors, il le prouve illico presto, il s'agenouille devant une table, comme si je m'agenouillais là, il glisse ses bras ici, il met les chaussures, là, ses mains dans des chaussures, le comparse qui est derrière sa chemise passe les bras sous ses bras, fait les mains, et à ce moment-là, il l'avait fait pour Fanfani, il le refait pour Berlusconi, et Dario Fo fait comme un chansonnier, si vous voulez, mais un chansonnier poète. Il attaque Berlusconi. Alors là, c'est, vous savez, ce texte qui s'est appelé l'anomalo bicéphalo, je sais pas comment on dit, donc le monstre bicéphale, hein, c'est ça qu'on pourrait traduire, le monstre bicéphale, c'est Berlusconi, qui est tout petit, qui est devenu un nain politique, alors Dario Fo qui est très grand, est devenu tout petit aussi, il s'est mis à la mesure de son adversaire, et l'anomalobicéphale, on a greffé scientifiquement sur le cerveau de Berlusconi le cerveau de Poutine, voilà. Et ça permet par la farce de taper. Voilà exactement ce qu'est le théâtre, c'est-à-dire se servir d'une technique, un jeu d'enfant, se transformer en nain, et tout d'un coup se servir de cette technique pour en faire une arme de service, pour attaquer, pour frapper de plein fouet l'adversaire. Et Berlusconi détestait qu'on se moque de lui. Et donc, il avait peur de Dario Fo. Il avait peur de Dario Fo. Voilà. Alors, j'ai monté moi-même, il ne faut pas payer, de Dario Fo, que mon ami Jacques Échantillon avait créé à Montpellier en 80. Et je suis frappé, la pièce de Dario Fo a été créée en 1974 à Milan. Et je trouve extraordinaire qu'au lendemain du premier choc pétrolier, de 73, c'est-à-dire qui marque pour notre territoire le début de la crise dans laquelle nous sommes plongés. 73, premier choc pétrolier. Eh bien, cet homme-là écrit une farce qui raconte ce qu'on est en train de vivre. Les délocalisations, les choix politiques, le chômage, la révolte populaire, l'écrasement des ouvriers, la faim. C'est une pièce sur la faim. Cet homme-là, parce qu'il est en contact avec des militants, parce qu'il a une sorte d'imagination généreuse de son époque, parce qu'il écrit le théâtre à partir du livre qu'est le monde. Et c'est ce que voulait Goldoni. Il dit il y a deux choses, il y a le livre du théâtre, il y a le livre du monde, et il faut que les deux communiquent, c'est le dialogue du monde et du théâtre, le théâtre, sinon ce n'est pas grand-chose. Voilà. Alors, par exemple, il lance « Faut pas payer » par cette idée tout à fait farfelue que les ménagères, en raison de la baisse des salaires, du début du chômage et de la montée des loyers, etc., les ménagères n'arrivent plus à faire vivre leur famille et elles font une razzia dans un supermarché et elles volent ensemble, collectivement, les aliments. Donc en 1974, les critiques à la création disent « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, ce Dariofou ?» etc. Et quelques mois après, c'était vrai, la réalité avait rattrapé la fiction. Voilà un homme qui a une imagination sur la réalité. Il ne fait pas. Alors, c'est délirant, hein, c'est totalement un vaudeville totalement fou. À partir de Calva, les femmes enceintes, elles sont toutes enceintes parce qu'elles cachent les marchandises volées. Elles font pour les récupérer, elles passent dans le quartier, il n'y a que des femmes enceintes. Ensuite, il y a des policiers, mais ces policiers, comme dans les canevas, il y a un policier qui est gauchiste et qui est du point de vue des ouvriers, puis il y a un policier qui est très réactionnaire, qui est contre les ouvriers. On ne sait jamais lequel policier arrive, etc. Alors, tous ces principes de canevas où, à un moment donné, le policier tombe mort, enfin, on croit qu'il est mort, on l'accroche dans l'armoire. Ça, c'est un canevas de Commedia dell'arte très ancien, le cadavre dans l'armoire, etc. Il se sert de tout pour imaginer, c'est-à-dire à la fois pour déformer le réel tout en respectant le réel. Dans une logique folle. Ce qui est assez étonnant, c'est que 50 ans après, moi j'ai écrit pratiquement 50 ans après le 2005, ce qui est étonnant, c'est comment cette œuvre est restée d'une vigueur satirique, comique, extraordinaire. Le public ne peut pas ne pas rire. Le public ne peut pas ne pas rire. C'est presque mathématique. Parce que c'est dynamique, parce que c'est construit et parce que c'est totalement fou. Cette folie dénonce la folie du réel. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Voilà. C'est une des grandes œuvres sur la faim, FIM, un peu comme Charlie Chaplin le faisait à son époque. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ou 5 minutes? Alors on va conclure. Si vous voulez, face à cet autre théâtre national populaire qui est devenu en Italie le Piccolo, sans jamais grand soutien de l'État, je crois, Dario Fo a inventé, finalement, une autre forme de théâtre du peuple, un théâtre populaire lié à une organisation politique. Ça a été l'organisation communiste d'abord, puis un mouvement d'extrême-gauche, mais sans jamais, ça il a été très fort, sans jamais perdre sa liberté artistique. Il n'est pas devenu un intellectuel organiste, ou je ne sais pas quoi, organique, comme on dit, au service d'une lutte. Non, il a accompagné une lutte, oui, mais il ne s'est pas privé d'être poète entièrement. Et c'est la force de Nancy Paga, c'est la force de la mort accidentelle d'un anarchiste, c'est la force de voilà. Alors, il est allé faire du théâtre, soutenu par les syndicalistes, les militants, dans des grands dancings ouverts, les jeux de boules sous abri, les hangars des usines, les palais des sports, les églises désaffectées. Nous n'avons pas l'équivalent en France de ce qu'a créé Dario Fo en Italie. Nous avons toujours resté dans le théâtre populaire, dans l'institution, mis à part... Ariane Mouchkine, d'une certaine manière, reste aussi dans l'institution de la cartoucherie. Elle n'est pas hors institution. Voilà. Donc, pourquoi Dario Fo a-t-il eu le prix Nobel? Justement, parce qu'il a arraché le théâtre à la littérature au sens qu'il est allé retrouver une tradition orale, une tradition immémoriale de l'oralité, car la parole, elle peut être orale. Il y a une tradition de la parole orale. Et d'une certaine manière, par l'improvisation, il a retrouvé sa force de l'oralité dans une époque où, accablé par les ordinateurs, par la mémoire technique, si vous voulez, on a perdu quelque chose de très puissant de l'oralité. La littérature, ce n'est pas forcément ce qui est écrit dans les livres. Si au théâtre, c'est de la littérature orale qui peut être donnée à des illettrés. Et cette tradition-là, c'est ça qui lui a donné son prix Nobel. D'autant plus qu'il avait mis tout son allant au service des exploités et des humiliés. Il a eu le prix Nobel la même année que 1997, qui est l'année du décès de Giorgio Strehler. Juste 2 minutes, une minute juste. Donc vous avez deux visages de l'Italie à travers ces deux théâtres. Un visage solaire, foyer de l'unité, c'est celui de Strehler. Quelque part, le dieu du théâtre, là, c'est Apollon. Et vous avez, de l'autre côté, quelqu'un qui représente la force dionysiaque qui se dresse contre toutes les répressions, et c'est la force de Dario Fo. D'un côté, le théâtre du soleil, et de l'autre, le théâtre de la tempête.